Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour le Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022, il fait toujours plutôt beau dans le Beaujolais, malgré quelques petits nuages, et les températures, eh bien, elles se situent autour de 23 degrés cet après-midi. Dans notre émission, on va parler du quartier métisseur avec l'écho du quartier, et puis de blues avec Queenie pour le blues du jeudi, mais d'abord, eh bien, on a rendez-vous avec notre invité du jour, l'auteur David Petit-Laurent, qui vient de sortir son 12e livre, un roman intitulé Gaston et le téléphone, avec un concept à la fois simple et original. En s'inspirant de la chanson Le téléphone de Nino Ferré, il s'est demandé qui se cachait derrière chaque personnage, de Bernadette qui est très chouette à Léonard qui porte une barbe noire, en passant par Anatole qui est frivole. On a les personnages, mais qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, la chanson nous la fournit également. Il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui y répond. Gaston va-t-il finir par répondre au téléphone? Pourquoi est-ce qu'il n'y répond pas? Qu'est-ce qui dépend de tous ces coups de fil? On en parle avec David Petit-Laurent dans quelques minutes. Avant ça, on écoute bien sûr Nino Ferré pour commencer cette émission. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous. Téléphone qui sont Gaston et le téléphone, c'est le nom du dernier roman de David Petit-Laurent dont on va parler aujourd'hui.
Ensemble sur Calade.
Salut DPL.
Bonjour Mathieu, bonjour Radio Calade.
Et merci d'être venu nous voir aujourd'hui. On va parler donc de ce roman qui vient de sortir, qui vient d'être publié.
Il est tout frais, tout chaud, oui.
Et qui a été signé le 22 septembre 2022.
Ah, j'avais même pas fait attention que c'était le 22 septembre, mais oui, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps.
Enfin, oui,
j'ai écrit durant l'été, oui.
Surtout pour dire que la fin de l'écriture et de l'édition, c'est allé très très vite.
J'ai mis un petit coup de pression à mon éditeur, j'avoue. Je lui ai dit, il me le faut absolument courant octobre, j'ai plein de séances de dédicaces à venir, donc j'ai mis un petit coup de pression. Et ils ont fait ce qu'il faut pour livrer ça courant octobre.
Bon, l'histoire, j'ai expliqué un petit peu en début d'émission. On prend la chanson Gaston, enfin le téléphone, elle s'appelle la chanson. Il y a plein de personnages qui sont énumérés et qui se cachent derrière chaque personnage. Tu as imaginé tout ça?
C'est la question qui me taraudait dans l'esprit depuis 2-3 ans à peu près. Où effectivement, quand j'écoutais cette chanson, je me disais, ben voilà, il y a plein de personnages, mais qu'est-ce qui se passe derrière ces personnages? Est-ce qu'ils sont liés entre eux? Est-ce qu'il leur arrive quelque chose? Et après, l'imagination avait besoin de creuser tout ça.
Alors, il y a des personnages où on a une idée sur leur personnalité. Il y en a un, il est malsain et c'est un bon à rien. Donc déjà, on a un...
Oui.
Il y en a juste Noémie, elle est très jolie.
Voilà, et faire un chapitre juste sur Noémie, elle est très jolie, c'est un petit challenge. Hein. Ouais. Surtout qu'elle est plus... jolie que Nathalie, mais moins que Zoé. Donc, je ne vais pas faire 3-4 chapitres sur OK, on va faire Miss France et compagnie. Donc, non, j'insiste très. Non, j'insiste pas du tout sur le côté superficiel de la chose. J'en parle, puisque effectivement, c'est ce que chante Nino, mais je ne fais pas 3 chapitres sur la beauté de ces personnages.
Ouais, ça ne fait pas une personnalité, donc il faut inventer tout le reste.
C'est ça. Oui.
Donc il y a 15 personnages, il y a une histoire et un enjeu, c'est-à-dire que...
Est-ce que Gaston va enfin répondre au téléphone? C'est la question qu'on se pose depuis maintenant 50, 60 ans.
Et du coup, le cadre aussi, le cadre de l'histoire, il était totalement ouvert par la chanson. C'est pas, y a pas forcément de lieu, de temporalité qui sont données.
Ça peut se passer à n'importe quel moment de notre siècle, de la vie, et dans n'importe quel lieu. Après... Mes romans, je fais toujours en sorte qu'ils se passent dans le Beaujolais ou dans la Calade. Donc, on retrouve le Beaujolais, la Calade dans les décors. En termes de temporalité, j'aurais pu faire ça à l'époque contemporaine, actuellement. Mais je voulais un petit côté nostalgique, comme la chanson, maintenant qu'elle est vieille, elle a un relan nostalgique envers les auditeurs. Je voulais jouer là-dessus. Donc, j'ai fait une première partie qui se passe en 1993.
Ouais.
Et une autre partie qui se passe en 2010, où là, c'est un peu plus contemporain sans être au point de l'actualité.
Ouais. Et du coup, ça se passe effectivement dans le Beaujolais.
Oui, parce qu'il y a des téléphones dans le Beaujolais.
Ouais. Donc ça marchait bien.
Ça marchait bien. Il y a aussi sûrement des Gastons.
Ouais. Et pourquoi le Beaujolais? Parce que ça... Enfin, c'est une habitude d'écrire dans le Beaujolais.
Déjà, j'apprécie et j'adore notre région. Je suis un pur produit du Beaujolais. Donc, pour moi, déjà, c'est beaucoup plus simple de matérialiser les décors et la vie du Beaujolais plutôt que de faire ça à New York. Même si, je connais un petit peu New York via les séries et via un petit séjour là-bas. Mais non, je préfère le Beaujolais. Ça met en avant le Beaujolais d'une manière décalée, puisqu'on retrouve le Beaujolais dans plein de romans. Ou plein de livres très axés terroir. Là, je mets le Beaujolais en mode fiction, comme on pourrait retrouver New York dans ses décors. Donc c'est pour faire concurrence à New York. Hein, simplement. On est la capitale du monde du Beaujolais, ce que New York n'est pas. Donc voilà.
Et le cadre, alors je ne sais pas ce qu'on peut raconter de l'histoire, parce qu'il faut quand même garder du suspense.
On ne va pas dire si Gaston répond au téléphone.
Ouais, mais ça commence quand même dans le monde du travail, la première partie, et j'imagine que tu t'es pas mal inspiré de ta vie professionnelle aussi, parce qu'il y a la machine à café, il y a...
Alors c'est l'endroit que je connais mieux de l'entreprise, ça c'est sûr. Comme c'est un roman... où on attend que Gaston réponde au téléphone, donc un roman axé en fait sur la communication, sur comment on gère notre communication, on va dire dans les années 90, où c'était plus simple qu'à notre époque, où maintenant on est ultra connecté. Et le monde dans l'entreprise, où on est souvent dans l'urgence, à appeler pour tout et n'importe quoi, et tout mettre au premier degré d'urgence. Je voulais raconter ça de manière complètement décalée, absurde, bien évidemment, sur un sujet je maîtrise bien, où il y a un petit enjeu sur la production des virements de salaire, ouais. Où là, effectivement, des fois, répondre au téléphone, ça a quand même son importance.
Ouais, sur les questions des fiches de paye.
Ouais.
Il y a ce cadre, et c'est vrai que le sous-texte, du coup, le livre devient un prétexte à parler de communication, justement, de comment on se parle. Il y a des questions qui se posent sur le téléphone.
L'utilisation du téléphone, alors dans les années 90, on se posait moins la question. Maintenant, de nos jours, le téléphone smartphone, c'est un vrai questionnement individuel, collectif dans un petit groupe, mais aussi collectif au sens large du terme, avec les réseaux sociaux et l'ultra-connectivité et l'ultra-instantané. Ce roman-là se passe en 2010, donc c'est en chouïa moins présent, mais il y a certaines réflexions.
Déjà, ces questions, il y a un personnage qui n'aime pas du tout les téléphones.
Il y en a un qui est rebelle, mais ce n'est pas Gaston, bizarrement.
Ouais. Et on a toujours un ami dans un groupe d'amis qui, on sait que lui, il répond pas au téléphone.
C'est ça, on sait qu'il y a, y en a un qui répond jamais, un autre, à l'inverse, qui va appeler tout le temps pour tout et n'importe quoi, d'autres qui vont envoyer que des messages, d'autres maintenant on a les messages vocaux qu'on laisse sur
les notes
groupes.
Vocales.
Les notes vocales, qui sont entre le SMS et le message qu'avant on laissait sur le répondeur. Ouais. Donc c'est qu'il y a plein de types d'utilisation du téléphone, et c'est vrai que ça peut être assez rigolo.
Tu réponds au téléphone facilement?
Ça dépend. J'avoue que je préfère les messages.
Ouais.
Les messages écrits qui sont un peu plus concis, et je considère que l'appel c'est une urgence, ou alors vraiment pour papoter. Mais dans ce cas-là, je préfère faire ça autour d'un verre.
Il y a une question que j'ai bien aimée, qui est évoquée dans le livre, qu'on se pose beaucoup en radio. Ah. C'est dans la communication, il y a 50% qui est non-verbal.
C'est vrai.
Il y a encore 10%, c'est autre chose. Et donc, ça laisse un petit 30-20% de juste la voix, ce qu'elle raconte. Et donc, c'est ce qui nous reste en radio.
C'est vrai que là, on n'est pas filmé, donc je peux faire tous les gestes que je veux.
Les auditeurs ne le sauront pas. Et est-ce que ça suffit pour avoir une communication saine? C'est une question qui se pose dans le...
C'est un vaste débat psychologique, psychosociologique. À ce niveau-là, je suis partisan d'avoir un visuel.
Ouais.
C'est-à-dire que si c'est juste sonore, sans le regard de la personne, même si on a la tonalité de la voix, on n'a pas tout.
Il en manque. Et pourtant, la radio, ça fonctionne quand même depuis quelques années.
Ça fonctionne bien, elle est toujours bien, mais parce que ça fait travailler l'imagination. Donc, du coup, on s'approprie d'une certaine manière la communication de.
Ouais. On imagine celui qui parle dans le micro. Moi, j'ai toujours fait ça.
Ouais. Va falloir en faire un roman, du coup, Mathieu.
ça a pris combien de temps d'écrire? Tu nous as dit au début que.
Je l'avais en tête depuis 3 ans. Le script, j'ai dû mettre 2 mois pour le préparer. Et ensuite, pour l'écriture, j'ai mis 2 mois et demi, mais j'ai perdu. Pendant le mois d'août, je faisais du babysitting avec ma petite nièce et mon petit neveu anglais. Sinon, j'aurais pu finir le bouquin fin août.
Et est-ce que les lieux, on les connaît? On est dans le Beaujolais, à Villefranche, Belleville, on croise Saint-Georges-de-Renin.
On peut les retrouver.
Les personnages... Te connaissant un petit peu, j'ai vu des choses qui m'ont parlé. Il y a aussi de la famille en Angleterre que tu viens d'évoquer. Il y a aussi
un petit clin d'œil. Ouais. J'aime bien faire des clins d'œil. C'est l'avantage après, sur certains romans, on va dire qu'ils sont assez légers, on peut faire des clins d'œil un peu plus facilement que quand c'est dans un thriller fantastique où il y a des morts dans tous les sens. C'est compliqué de faire un petit coucou à sa famille là, dans ces cas-là. Mais là, sur une histoire légère, assez fun, je fais des petits clins d'œil à mon entourage.
Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les personnages qu'on reconnaît plutôt dans les archétypes. Il y a 15 personnages, il y a de quoi faire. On a tous croisé quelqu'un à la machine à café qui parle beaucoup, qui raconte des choses qui paraissent un peu invraisemblables.
C'est ça, on a tous croisé à la machine à café, j'espère, une Noémite qui est très jolie. Donc, c'est une Bernadette qui est très chouette, un Anatole qui est frivole. Effectivement, on retrouve des caricatures de personnages un peu partout, et c'est ça qui est rigolo. Ça permet de s'approprier le bouquin. Mmh. C'est pas de la fiction pure à 100%. Il y a de l'appropriation de ce qu'on croise au quotidien.
Là, maintenant, le livre, il a été publié, il est distribué. Comment ?
Il est distribué via mon éditeur Nombre 7. Alors, on ne peut pas le retrouver dans les librairies en physique de Villefranche, mais on peut le commander. Donc, si vous allez à la librairie des Marais, Cultura ou autre, vous pouvez passer commande aisément. Sinon, après, moi, je vais faire quelques séances de dédicace dans le coin. Je commence dès ce soir au 1900 de 17h à 20h. Samedi, Cultura Champagne. Le samedi 5 et 6 novembre, je serai au salon Little Country Off de Charnay-lès-Mâcon.
Ouais.
Donc, pas bien loin. Et ensuite, pour ceux qui feront un petit peu de route, le vendredi 25 novembre à Cultura Annecy et le samedi 26 novembre à Cultura Bourgoin-Jallieu.
Très bien. C'est important de rencontrer les lecteurs.
C'est important pour faire vivre le livre. Moi, en tant qu'auteur, ça me redonne du peps pour continuer à écrire, parce que du coup, on a des échanges très sympathiques avec les lecteurs et les lectrices. Et donc, oui, ça fait partie des moments fun du livre, parce que quand, ouais. Voilà, quand on écrit, on est seul devant son ordinateur. Après, quand on l'envoie à l'éditeur, on a deux, trois échanges. Mais le vrai moment où on fait vivre le livre, c'est au moment des dédicaces et des salons.
Et l'écriture, c'est quelque chose, j'ai l'impression, d'hyper régulier. J'ai l'impression que ça fait partie de ta vie et que c'est devenu...
C'est ça, bah, voilà, j'ai terminé le roman donc, le 22 septembre et j'ai commencé l'écriture d'un nouveau roman lundi. Je me suis laissé un mois et demi de repos, mais quand je voyais le clavier de mon ordinateur chez moi qui prenait la poussière, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose.
Il faut reprendre.
J'ai encore des choses à écrire. Donc,
Donc ça va être le 13e. Il y a eu du fantastique, il y a eu du thriller, il y a eu de la romance, on ouais. peut dire. Il y a eu des choses un peu historiques.
Policier, de l'humour. Le 13e, je reviens dans l'univers de la fantasy.
Okay.
Parce que je vais réécrire une histoire qui se passe dans le monde des éphémères du temps, qui était ma première trilogie de fantasy. En 2015-2016, et là j'y retourne puisque j'ai pas encore exploité tout ce que j'avais à exploiter dans cet univers-là.
Le tome 4, il y a une référence dans le...
Ouais. Je fais tout le temps des clins d'œil. Je fais mon auto-promo dans mes bouquins en plus, donc j'ai un gros avantage.
Il y a une autre chanson, il y a deux autres chansons que j'ai repérées qui sont évoquées. Il y a le Sud et Mirza. Mirza, c'est hyper touchant.
C'est l'un des chapitres que j'ai eu le plus de mal, où je voulais pas me planter. Parce ouais. que c'est un sujet très sensible, et là où effectivement on touche à l'affect et à des situations très délicates. Et j'ai eu des premiers retours effectivement qui étaient très positifs sur ouais. ce chapitre-là. Mais oui, j'ai même fait aussi un clin d'œil sur la chanson de la maison au bord de la fontaine.
Ah oui, j'ai pas la ref. Moi, je connais le Sun Mirza. Et Gaston, j'écoute pas, c'est mon opéré.
Voilà,
mais effectivement, quand on entend la chanson, moi je m'attendais à un livre tout pastel, avec des personnages colorés, c'est la fête, tout va bien. Et non, c'est la vie en fait.
La vie n'est pas que pastel et joyeuse. voilà, il y a au milieu deux personnages qui sont un peu plus en souffrance et ils ont vécu une... petit instant de leur tranche de vie qui est un peu plus effectivement triste que les autres.
Ouais. Bah en tout cas, le livre m'a passionné. Je l'ai lu d'une traite, Gaston et le téléphone. Et
cool.
Donc, à le retrouver sur Internet et puis à commander dans toutes les bonnes librairies de la Calade.
Exactement.
Merci.
Parfait.
Merci beaucoup, David.
Merci à toi.
Et rendez-vous, tu nous l'as dit, à partir de 17h ce soir.
Ce soir, au 1900, en centre-ville, autour d'un rafraîchissement, puisqu'il fait chaud, on va en profiter pour s'hydrater.
Parfait. Merci beaucoup, à très bientôt.
Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va faire une petite pause musicale avant de continuer dans le programme de cette émission. On parlait de téléphone, on va rester encore un petit peu dans la thématique avec un vieux morceau, Kim Harlow, Allo Réseau.
Je l'adore.
Sur Kellad avec ce titre que certains qualifieront de kitsch et pourquoi pas. C'était Allo Réseau.
Ensemble sur Kellad.
L'écho du quartier.
L'écho du quartier. Allez, bon, on va faire un tour au quartier Métisseur avec Florent. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors qu'est-ce qui se passe de beau au quartier Métisseur ?
Eh ben, sur les sur ce mois de novembre, tous les week-ends vont être pris. Donc prenez vos agendas.
Attention, ça va se remplir très vite.
Ça va se remplir très vite. Donc on commence le samedi 5 prochain avec un chœur qui va venir faire un concert. Donc ils vont être en résidence toute la semaine au quartier Métisseur. Ce sera un chœur d'une vingtaine de personnes. Et ils vont travailler le concert qu'ils vont faire le samedi soir. Exceptionnellement, ça sera à 19h. Donc, ça sera au quartier Métisseur. Comme d'habitude, c'est en entrée libre. Et voilà, on vous attend à partir de 19h pour voir ça. Ça sera de un répertoire contemporain et classique.
Il s'appelle comment, le chœur ?
Le chœur s'appelle Sileps et c'est un chœur de jeunes étudiants en école de musique.
D'accord,
voilà. Super. Au même moment, si vous êtes à Lyon, il y aura notre brasserie, la brasserie Valdaz, qui sera présent au salon Sous les pavés la vigne. Donc il y a un des gros rendez-vous vin, nature, bière et spiritueux dans la région. Donc vous pourrez retrouver Léa, notre ancienne brasseuse, qui sera là pour vous présenter la bière tout le week-end. Ensuite, on enchaîne avec le week-end suivant, le 12-13, où là, le samedi 12 au soir, ça sera la deuxième édition du club de dégustation au quartier Métisseur. Donc on se réunit, c'est ouvert à tous. Ça sera le club de Noël, donc on va goûter 6 vins en accord mais 20. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de la dégustation, si vous souhaitez, vous pourrez faire vos commandes
auprès des vignerons et du coup de bénéficier d'un tarif direct des parcs caves. Donc on va goûter du champagne, du Bordeaux, enfin plein de choses.
D'accord.
Voilà, donc c'est 30 euros et pour 6 vins dégustés et un accord à manger à chaque fois. Okay. Le lendemain, le dimanche matin, on organise un brunch.
D'accord.
Donc rendez-vous au quartier à partir de 9h30-10h. Pour un brunch, il y aura plein de choses, il y aura des gaufres, des pancakes.
Très bien.
Pour passer la matinée.
Dimanche 13 novembre, si j'ai l'agenda en tête.
Oui, c'est ça, dimanche 13 novembre.
Ok.
Voilà, donc vous pourrez passer la journée au café en suivant, on restera ouvert toute la journée. Et enfin, mais ça on aura le temps de revenir vous en parler, les 19 et 20 novembre, cette fois c'est nous qui organisons un salon professionnel, un salon du vin nature. C'est la deuxième année qu'on a un partenariat avec la Team Sud Beaujolais Bio, qui sont un groupement de vignerons des Pierres Dorées, qui sont tous labellisés bio. Et donc vous pourrez venir sur les deux jours pour déguster leur vin, les rencontrer, parler de leur travail. Comme tous les ans, il y a un invité hors région. Et cette année, ce sera le domaine de Kissa, qui vient du Lot-et-Garonne.
D'accord.
Donc voilà, vous pourrez venir les rencontrer. Ils font un super travail. En plus de la vigne, ils ont une ferme en polyactivité, où ils font du fruit, de la céréale. Voilà, c'est très intéressant. Et le soir, le samedi soir 19, du coup, on a un repas concert. Donc, pas de réservation à l'avance, vous venez sur place, ça sera 30 euros, donc avec le repas et le ticket de concert. Et le concert, ce sera la fanfare Zibline,
okay,
qui va animer toute la soirée et peut-être nuit, si le public répond présent, avec un répertoire traditionnel, de fanfare traditionnelle. Ils abordent un peu les Balkans, un peu de jazz, un peu de New Orleans, voilà, c'est très varié. Donc, ça va être un chouette moment.
Ça va plus, c'est bon, le mois de novembre.
Mois de novembre chargé. On revient dans deux semaines pour vous rafraîchir la mémoire. Mais en attendant, la date la plus proche, c'est samedi 5 avec le chœur de chant Sileps.
Ouais. Super. Merci beaucoup.
Merci Mathieu.
Ensemble sur Calade. 100.9.
Allez, ça nous laisse un petit peu de temps avant de retrouver Queenie pour le blues du jeudi. On va en profiter pour écouter quelques musiques. Je vous propose d'écouter quelque chose qui est sorti cet été. C'est Lyonnais, c'est le duo Gazelle qui l'a sorti. Ça fait partie de leur EP appelé Gazal, G-H-A-Z-A-L. On est sur du hip-hop, mais du hip-hop un peu électro, un peu différent, un peu original. Le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle L'ennemi de Gazelle.
Est-ce que tu sens le vent qui gronde dans le ventre du monstre, celui qui chante, celui qui mange les ombres avant de régler sa montre? Brûlé par le soleil, des larmes sous les orteils, pays des merveilles et la muse teinte vermeille. Transforme les étoiles en grains de sel. Transforme les étoiles en grains de sel. J'entends, j'attire, je vise, je suis. J'entends, j'attire, je vise, je suis l'ennemi.
Toi c'est moi, regarde-nous comme on fait qu'un sous le même ciel.
Je vise, j'entends.
Deux voix qui s'en mêlent et qui se pourchassent dans les airs avant de se noyer dans le même sol épris.
J'entends.
Mon cœur qui vise des deux côtés de ta main, la mienne comme nos deux larmes qui ont le même sel.
Je vise, j'entends.
Ton œil dans le mien, ton souffle dans le mien, ton corps dans le mien, dans le temps le mien.
J'entends.
Tu me cries de murmurer plus fort encore, plus fort encore.
Ton rire sous le vent, mon âme en fond, j'entends je flotte entre le bon et le truand. Regarde-les qui se battent, je joue le rôle de l'acrobate. En l'eau, tu sautes au milieu des balles. Je sens mon cœur qui gronde sous le sable. Le bon, le truand, la même face.
J'attire,
j'attire, je vise
plus fort,
je suis. J'entends
ton souffle,
j'attire
ton corps,
je vise
encore,
je suis. J'entends
mes cris,
j'attire
tes larmes,
je vise
plus fort
l'ennemi.
Gazelle sur Khaled avec ce titre qu'on vient d'entendre, c'était l'ennemi. Allez, je vous propose encore une nouveauté, ça vient de sortir, c'est tout frais, ça sort du four. Mathias Malzieu et Darian Nilsson ont sorti un album en commun, l'album s'appelle La Symphonie du Temps qui Passe. On peut écouter un morceau, Unlovable Man. Chouette duo, Mathias Malzieu, c'est le chanteur de Dionysos pour ceux qui n'auraient pas la référence, et Daria Nelson, La Symphonie du Temps qui Passe, c'est le nouvel album qui vient de sortir.
Ensemble sur Khaled, le blues du jeudi.
Il y en a, ils feraient mieux de faire du blues, hein.
Oui, il y en a qui feraient mieux de faire du blues. c'est pas Queenie qui nous dira le contraire. Bonjour Queenie.
Alors ça c'est sûr. sûr. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle Long Distance Call, qui est une chanson du musicien de blues américain, comme vous connaissez sûrement, Muddy Waters. Il est sorti en single en 51 par Chess Records, avec Too Young to Know en face B. Ce single a atteint le niveau 8 sur le graphique R&B américain. Il est sorti plus tard sur le plus grand album à succès, The Best of Muddy Waters, en 58, et est salué comme une chanson de blues moderne classique. Le chant de Waters est cité comme un excellent exemple de note bleue. Alors, au départ, cette chanson, elle s'appelle Long Distance Call, Long Distance Moon, pardon, et en fait, qui a été enregistrée en 1929 par Blind Lemon Jefferson. Alors, à la fin des années 40 et au début des années 50, Muddy Waters enregistrait le type de musique qui a aidé le blues à survivre en tant que musique commercialement viable. Et donc, ce morceau a été enregistré, donc, comme je disais, en 1951, avec Little Waters sur la harmonica et Ernest B. Crawford sur la basse. Alors les paroles mettent en scène un orateur masculin qui s'adresse à sa maîtresse, lui demandant de lui dire quelque chose de gentil, il faut le faire. Mais quand un appel arrive à longue distance, c'est non seulement pour lui dire qu'un autre est a pris la place. John Collins appelle la chanson à un lent méditatif comme moteur natif du Mississippi travaillant à Chicago a exploité la migration comme un thème commercial. Hein, c'est pas mal hein, comme idée. Alors, il y a pas mal de critiques hein, qui ont été faites par des animateurs, des critiques musicaux. Entre autres, Humphrey Littleton, qui était anglais, qui a passé en revue la chanson en 55 dans New Musical Express en affirmant que Waters est un véritable chanteur de blues contemporain. Dans une entrevue de 69, d'ailleurs, Muddy Waters a dit lui-même que c'était sa chanson préférée parmi toutes les chansons qu'il a enregistrées. David Dicker, dans Blues Singer, qui est en fait un bouquin biographie de 50 artistes légendaires au début du XXe siècle, appelle la chanson un classique du blues moderne définitif. David Hatch et Stephen Millward, dans une analyse du blues aussi, ont choisi la chanson parce que, à leur avis, elle montre la maîtrise de Muddy Waters pour le chant blues, en particulier son glissé sans effort entre les tons majeurs et bleus, et avec juste le mélange d'espoir et d'amertume dans la voix.
Ouais.
Alors on va écouter un medley qui est composé de 4 titres. Donc on va commencer quand même par Blind Lemon Jefferson, donc pour l'anthologie, hein, Long Distance Morning. Puis Muddy Waters dans sa propre version plutôt améliorée, suivi de R.L. Burnside, et on finira par Eric Clapton dans son avant-dernier opus qu'il a sorti, qui s'appelle The Lady on the Balcony, le fameux concert qui a été fait dans un manoir pendant le confinement où il est en acoustique avec Chris Stanton au clavier et son super pote Nathan East à la basse.
Très bien.
Voilà, il n'y a plus qu'à écouter.
Moi j'ai quelques questions avant le morceau de musique. Déjà tu as parlé de notes bleues et j'aimerais bien que tu puisses m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire.
Ah bah ça m'étonne pas que tu me pièges avec ça. En fait moi ce que je ressens la note bleue c'est en fait c'est des altérations si tu veux sur un ton majeur et il passe en mineur et revient en majeur. Enfin pour les musiciens hein, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que quand les gens composent en
du blues.
En blues, mais en gamme majeure, en fait, c'est plutôt ouvert, alors que mineur, c'est plutôt sombre.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ?
Le majeur, c'est joyeux, le mineur, c'est un peu triste.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand on prend, même dans la musique classique, hein, c'est pareil, quand on prend des morceaux de Chopin, par exemple, ou de Beethoven, ils sont souvent en mineur, et c'est vrai que ça montre un peu le côté, pas pompier, mais un peu sombre de ce qu'ils étaient, quoi, en fait, et ce qu'ils ressentaient, le romantisme à outrance et tout ça.
Et donc la note bleue, ça rajoutait un peu de cette tristesse dans une gamme majeure, c'est ça ?
Voilà.
Ok.
Voilà.
Et on va entendre de la superbe guitare slide. C'était le morceau.
Oui.
C'est magnifique dans le morceau. C'est les débuts de la guitare slide ou pas quand ça
Ah bah non, ça faisait longtemps que ça existait parce qu'en fait la slide, elle se joue avec un bottleneck, c'est-à-dire c'est un morceau de goulot de bouteille en fait au départ. Bon, après, évidemment, ils ont fait ça en métal. Bon, il y a plein de matières qui peuvent permettre ce jeu. Et puis, il y a aussi une façon d'accorder la guitare, ce qu'on appelle en open space. et en open...
open space, c'est pour le boulot, ça.
Oui, oui. Oh là là, je suis pas bien claire ce matin, moi. Voilà, et donc en open, et ça, ce qui fait que après, quand ils jouent, c'est un peu différent, en fait. Il y a des spécialistes... il y a un Australien qui s'appelle, je crois que c'est Bob Orange. Il y a Chris Rea, mon chouchou aussi, qui joue énormément en slide. Il y en a pas mal comme ça. Et c'est vrai que c'est un son particulier. D'ailleurs, Chris Rea le disait quand il a entendu la première fois un guitariste chanter et s'accompagner en slide. C'était Charlie Patton. Et il a entendu ça à la radio pendant que sa mère était en train de se coiffer. Il était jeune. Et il a cru que c'était du violon. Carrément. C'est vrai que le son est assez particulier. Ben voilà, donc aparté.
De blues en règle générale. Long distance call ou bone alors? On prend lequel?
Non, de toute façon, c'est call, mais pour l'idée, j'ai quand même passé le premier là, de Blind Lemon Jefferson, qu'il avait appelé Long Distance Moaning, mais ce qui revient au même, en fait. Après, l'adaptation de Muddy Waters, c'est effectivement Long Distance Call. Alors, à pas confondre, parce qu'il y a un certain Phoenix aussi qui l'avait enregistré, et puis en fait, c'est rien à voir.
Oui, voilà. C'est pas pareil. On va écouter ça. Merci beaucoup, Queenie.
Eh ben de rien, et puis à bientôt.
À très bientôt, ciao, ciao.
Au revoir.
Say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. A man can be. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. Thank you.
me, darling. Please call me on the phone sometime. Darling, please call me on the phone sometime. Hear your voice, ease my worried mind.
Cadillac, he only speaks some good words about me.